Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM 93.1. Nous sommes jeudi 26 décembre, il est 10h, c'est l'heure de tourner les pages dans votre magazine littéraire Au fil des pages, aujourd'hui présenté par Nadia Itayeb. Comment écrire sur une guerre qui, pendant des années, a refusé de dire son nom? Une guerre qui s'est refusée aux mots, à force d'horreur, et a conduit de nombreux jeunes appelés au seuil de la folie et à devenir l'ombre d'eux-mêmes à force d'exaction. L'appelé est un premier roman de Guillaume Viry, un long monologue écrit dans une langue poétique et accidentée, heurtée, une langue frappée de sidération face à une mission de pacification qui se transforme pour Jean en cauchemar. Le roman s'écrit dans les interstices du silence repoussé jusqu'à faire exploser un cri trop longtemps retenu, des cris, celui de Jean, celui de ses proches. Récit à plusieurs voix, donc, qui interroge la barbarie aliénante qui enferme victimes et bourreaux dans un même destin, une même spirale, qui sonde les silences des archives, une mémoire muette comme pétrifiée et honteuse. L'appelé est un roman sans fioritures qui ressuscite les ombres, vouées à l'effacement, acteur sans nom d'une guerre sans nom. Guillaume Viry nous offre là une création d'une rare intensité pour parler de la guerre d'Algérie, de toutes ces guerres qui nécessitent l'invention d'une forme particulière parce qu'elles échappent à ce que l'on peut imaginer. L'appelé est publié depuis septembre 2024 aux éditions du Canoë et Guillaume Viry est mon invité aujourd'hui. On le retrouve tout de suite après ça.
Tout est revenu sous forme de cauchemar, des gorges ouvertes, écrit. J'ai dû prendre un psychiatre et je suis toujours sous ses soins. Et je peux dire que mon témoignage n'est pas le témoignage d'un fou, mais j'ai eu des moments d'égarement.
Les douleurs, les cauchemars ont disparu quand j'ai pu mettre en face l'un de l'autre le garçon que j'étais là-bas pendant cette époque tragique et l'homme que j'étais devenu. Si j'avais pu comprendre que le coupable, ce n'est pas celui qui est assis là qu'on veut faire parler, mais c'est celui qui veut le faire parler. Je ne serais pas arrivé à la torture.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une thérapie quelconque qui puisse effacer d'une mémoire la force que représentent les images.
Je ne peux pas m'endormir sans avoir une réaction stupide, une forme de sécurité, d'avoir une arme à côté de moi, comme je l'ai toujours eu. C'est une espèce de confort psychique.
C'est en revenant que j'ai eu honte. J'avais honte d'avoir été obligé de voir ce que j'ai vu, d'être témoin de ce dont j'ai été témoin, sans rien pouvoir faire, et oui, d'être embarqué là-dedans.
Voilà un extrait d'un documentaire de Patrick Rothman diffusé en 2002 à la télévision pour introduire cette émission avec vous, Guillaume Viry, qui nous offrait, je le disais en introduction, un roman d'une très très grande intensité sur cette partie très sombre de notre histoire. Un roman sobrement appelé « L'appelé ». Tout une évocation dans ce titre dont on parlera peut-être. Alors vous êtes comédien, scénariste et réalisateur, vous avez notamment collaboré avec Alain Guiraudy et Philippe Gentil. Comment vous est venu pour ce premier roman, comment s'est imposé, j'allais dire, à vous, ce sujet de ces esprits et ces corps broyés par une guerre sans nom?
Bonjour, merci.
Bonjour, pardon. Vous avez raison, bonjour, j'ai oublié de vous dire bonjour.
Non, j'ai dit bonjour avant. En même
oui.
Temps, donc, bon, c'est un artifice.
Absolument.
Mais, le point de départ en fait, de l'écriture du texte, pour moi, c'est un oncle, voilà, le frère, un des frères de mon père qui est parti en Algérie, qui a été appelé, voilà, à l'âge de 20 ans, et dont familialement on ne parle pas, on n'a jamais parlé véritablement. Mon père m'a seulement dit que ça s'était pas bien passé. Vraiment cette phrase-là, quoi. Et en même temps, ce silence comme ça, enfin ce silence, ce très peu de mots de mon père par rapport à son frère était toujours très, très chargé, quoi, très...
Très lourde émotion, comme votre silence à l'instant, Guillaume Viry, qui dit aussi le poids de ce sujet encore aujourd'hui. Alors, ce roman prend une forme totalement inédite, à mon sens, celle de voix qui se croisent dans des monologues. La voix de Jean, jeune appelé, donc, dont le destin ressemble à celui de cet oncle que vous avez du mal à évoquer.
Oui, c'est vraiment le point de départ. Voilà. C'est le point de départ familial.
Voilà. Voilà, celle de Julien, le neveu, celle de Louis, le père, et celle de Joseph, le frère. Des voix qui s'entrecroisent dans ce qu'il est convenu d'appeler un texte choral, et un texte auquel vous avez donné une forme tout à fait singulière, poétique, mais sans fioritures. C'est une langue vraiment très très belle, à force d'être celle de la répétition, du ressassement, et une langue qui ne fuit pas aussi les aspérités de ce dont elle cherche à parler, contre le silence.
Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. En fait, c'était de... Il fallait que j'écrive, en fait, qu'il y ait quelque chose qui soit écrit, en fait. Qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, quoi, voilà. C'est vraiment ça. Après, en fait, voilà, il y a ce point de départ, cette émotion voilà, familiale. Après, dans le cheminement, en fait, de l'écriture du texte, j'ai quand même beaucoup lu les historiens, notamment Benjamin Stora et Raphaël Branche, avec qui j'ai échangé d'ailleurs avant l'écriture du texte et maintenant après l'écriture d'ailleurs. Raphaël Branche qui a écrit « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» C'est un texte sur les appelés, voilà. Spécifiquement sur les appelés, qui est vraiment formidable. Quoi.
Très beau texte et très, très, très dur aussi.
Oui, très, très, très dur, ouais. Très fort. Et voilà. Après, il a s'agit en quelque sorte d'oublier ses lectures d'historien, parce que je ne voulais pas faire un livre d'historien, je ne suis pas historien. Quoi, voilà. Et pour pouvoir me lancer justement dans l'écriture, dans le langage, il a fallu vraiment trouver une forme, en fait, effectivement. Alors je savais, j'avais l'intuition au départ que de toute façon, c'était le cœur du texte, c'était cette voix de Jean, que ça devait être le cœur du texte, mais que cette voix devait finalement se balader, quoi, de génération en génération, et que c'était par le biais de l'enquête, entre guillemets, en tout cas cette recherche de son neveu, Julien, qu'on allait découvrir au fur et à mesure, comme ça, l'histoire de Jean, quoi. Mais après, concrètement, j'ai pas fait d'enquête. En fait, j'ai juste demandé à récupérer le dossier militaire de Jean et le dossier psychiatrique que j'ai eu. Les deux sont aussi lacunaires et que laconiques. Les deux, c'est des... Voilà, il n'y a rien de bon. Voilà. Mais finalement, ça m'allait assez bien, parce que en fait, je me rends compte maintenant, le texte écrit avec un petit peu de recul, c'est que je ne cherchais pas des faits, véritablement. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé là-bas, pas vraiment. Enfin, si, il y a plein de témoignages d'appelés, on sait quand même. Un peu, voilà. Mais ce qui comptait, c'était d'écrire une histoire, c'est une fiction, quoi.
Oui. C'est une fiction qui dialogue avec une réalité historique.
Bien sûr, oui.
Oui, pardon.
Non, j'ai évidemment essayé quand même, d'où mes lectures quand même préalables d'historien, de ne pas commettre de... Enfin, de ne pas raconter des bêtises, quoi. Que ça soit plausible. Enfin, c'est moi qu'on peut... Voilà. Évidemment, oui, oui. Mais... Et après, oui, non, c'est l'histoire de trouver une architecture, véritablement, mais c'est comme ça que j'écris. Enfin, c'est-à-dire que pour que je puisse rentrer dans le langage, dans les mots, dans l'écriture, véritablement, il faut d'abord que j'ai une architecture, une forme. Et la forme, là, je l'ai trouvée après, ça a mis du temps. Hein. Au début, je ne pensais même pas en faire un roman, je pensais en faire un documentaire, voire une fiction. J'ai commencé à écrire des débuts de scénario, bon, voilà, ça ne m'allait pas. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est l'endroit le plus libre, l'endroit des possibles, c'est le roman, en fait. C'est là où je pourrais être le plus libre. Donc c'est là que ça s'est précisé. Et puis après, donc, oui, trouver cette architecture de l'entrelacement, cet entrelacement de voix, en fait, qui, même si elle parle à des années d'intervalle, puisque ça parle depuis 1961, enfin, jusqu'à maintenant,
64,
jusqu'à nos jours.
64, 69.
Jusqu'à la parole du moment de l'écriture du livre, finalement.
Oui.
Mais finalement, c'est comme si ces voix, malgré le temps qui a passé, étaient quand même toujours dans un temps arrêté, quoi.
Et ce qui est très beau aussi, Guillaume Vuilly, dans ce roman, La Plaie, c'est que l'enquête qui reste une enquête vouée à l'échec, non exhaustive, laisse la place aussi à la création littéraire. Et à une création littéraire... qui laisse à son tour respirer le mystère, les non-dits qui entourent le destin de Jean.
Oui, oui, tout à fait. En fait, peut-être au départ, naïvement, j'avais l'idée en me disant « je vais écrire et à la fin du livre, je saurai ». Je ne sais pas quoi, mais je saurai. Mais en fait, j'en sais encore moins, quoi. Mais c'est pas grave, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir écrit, c'est qu'il y ait quelque chose et que cette histoire soit racontée, voilà. Mais après, je ne sais pas plus de faits concrets, machin, non.
Oui, alors on en sait, nous aussi, lecteurs qui partageons ce récit, pas grand-chose, mais au fond, on touche à une vérité de l'intime à hauteur d'homme. Une vérité vraiment très forte, très organique, qui passe par le sensible, par tout ce qu'on peut imaginer d'un esprit torturé par ce qu'il a vu de la torture en Algérie, des massacres de masse. Et c'est ça qui est très très beau et très réussi dans ce texte. C'est qu'au fond, vous laissez une place au lecteur, vous laissez une place à ce silence... qui fait partie de cette histoire-là. Il y a la grande histoire factuelle qu'on peut écrire et qu'on écrit de plus en plus grâce à des historiens effectivement comme Benjamin Stora et d'autres, Gilbert Meynier et d'autres encore, Mohamed Harbi en Algérie. Mais il y a cette histoire de l'intime. Qu'est-ce qui s'est joué dans l'esprit de ces jeunes gens appelés? Dans ce terme, il y a quand même une force extraordinaire, hein, presque messianique, pour finalement vivre un cauchemar et prendre conscience, comme le disait l'un des témoins de l'ennemi intime, de Patrick Rothman, que finalement, le coupable n'était pas celui qu'on soupçonnait d'être coupable, mais celui à qui on voulait faire... avouer sa culpabilité. Et il y a tout un travail dans votre écriture aussi sur cette culpabilité dévorante avec le souci d'une écriture organique, hein, c'est-à-dire qui vraiment touche au plus près d'une forme de folie, d'aliénation, au sens où l'entendait Frantz Fanon aussi, où faire cette guerre, c'est aussi s'aliéner. Se
oui,
perdre.
Oui. Tout à fait, oui, c'est ce...
Alors on
Il y a plein de témoignages, ils en sont vraiment venus totalement autres, en fait.
Oui.
Où ils sont devenus autres. Oui, fissurés, fracassés, je ne sais pas comment on peut dire, mais oui, bien, c'est...
Alors le mieux peut-être, Guillaume Vuri, c'est de la faire entendre, cette langue que vous avez trouvée finalement pour la prêter à vos personnages. Je vous laisse lire.
Les deux feuilles de l'armée française sont lacunaires. Des dates, seules des dates. Moi, Julien, je les lis. 20 décembre 1960, embarquement à Marseille. 21 décembre 1960, débarquement à Alger. Janvier 1961, affecté à la 70e compagnie de réparation divisionnaire basée à Berouadjia. 17 mars 1961, évacué sanitaire par voie maritime depuis Alger. 18 mars 1961, débarqué à Marseille. 3 mois. Tu ne restes que 3 mois. Évacué. Évacué sanitaire. Que veut dire évacué sanitaire? Que sont ces 2 mots? Que sont ces 3 mois? Quoi à l'intérieur des mots? Quoi à l'intérieur des chiffres? Quel est le secret de l'homme qui meurt à 30 ans? Ça s'est mal passé dès la traversée, me dit Joseph. Jean ne voulait pas partir, Joseph n'en dit pas plus. Je pense que Joseph n'en sait pas plus. Je ne comprends pas, je n'ai aucune image, je n'ai aucune idée. Aide-moi, Jean. Aide-moi. Je dois poursuivre. Les mots manquent. Moi, Julien, je dois faire comme Joseph, les yeux plongés dans les lunettes du microscope. Je dois inventer. Donner forme à l'informe. Moi, Julien, je dois être Jean, l'homme qui meurt à 30 ans. Que Jean vive encore, vive pour enfin mourir. Qu'enfin Jean meure, qu'enfin Jean puisse véritablement mourir. Je donne de nouveaux coups de pagaie, je quitte l'entrelac. La pirogue glisse sur des eaux sans fond, évite les éboulis. Moi, Julien, je dois poursuivre dans le pays inconnu.
Voilà, un premier extrait donc, de ce roman, La Plaie, porté par votre voix, Guillaume Vuri. Donner forme à l'informe, hein, c'est tout ce dont on parle depuis le début de cette interview.
Oui, totalement le projet, enfin, la nécessité du livre, en fait, de l'écriture du livre. Vraiment.
Et comment, comment est... Avez-vous travaillé cette écriture? Est-ce qu'elle s'est imposée à vous? On a l'impression d'un souffle, peut-être parce qu'il n'y a pas de ponctuation, oh ouais, mais d'un souffle, d'un...
Je l'ai écrit vraiment très vite, en fait.
Continue. Ouais.
Je l'ai écrit très vite, en résidence à la Fondation Michalski, en Suisse.
En face du lac Léman, j'ai
exactement,
vu.
Dans une cabane avec le... une vue merveilleuse sur le lac Léman, quoi. Et je l'ai écrit d'un trait, ouais. Et je suis presque pas revenu dessus après, très très peu, quoi, en fait. Ça a été... C'était le moment, voilà, comme s'il fallait que ça sorte d'un trait. Une fois que j'avais l'architecture, c'était assez facile, en fait. Enfin, facile. Il suffisait de laisser, comme ça, cette parole se dérouler. Et, oui, avec ces blancs, quoi. On m'a fait la remarque, d'ailleurs, qu'il y avait beaucoup de blancs, à la fois le mot et à la fois de blanc entre les lignes.
Oui.
Quoi. Bon, et j'ai pas cherché à éviter ces répétitions de blanc et, voilà, et à coller le texte. Non, parce que je pense que ça fait vraiment partie du texte. En fait, c'est qu'il y a des... Oui, il y a toujours des blancs, quoi. On peut pas... On se heurte quand même si on écrit à un moment... quand même un mystère, quoi. Ça résiste à la fin, c'est quand même...
Oui.
Il y a toujours des blancs, quoi.
Oui, on a l'impression que les mots sont toujours au bord d'un silence.
Oui, ouais, ouais.
Et crèvent le silence en même temps.
Il y a quelque chose, oui, de mystérieux. Évidemment, de toute façon, il ne s'agissait absolument pas de donner aucune réponse. Enfin, je ne sais pas quelle réponse on peut donner, de toute façon. C'est que des questions, quoi, et des sensations, oui, physiques d'ailleurs, oui, bien sûr.
Je me suis d'ailleurs demandé, mais peut-être la question va vous paraître stupide, quelle était la part possible de votre œuvre de comédien dans ce travail d'écriture, qui est une écriture très incarnée, puisqu'il s'agit de donner voix à des personnages. Ils n'existent que par leur voix, au fond.
Oui, oui, complètement. Mais non, mais sans doute, évidemment, quand même, je suis nourri et influencé par ces longues années de théâtre, quoi, et de lecture de théâtre, quoi. Je pense à Jean-Luc Lagarce, évidemment à Coltès, enfin plein d'autres comme ça, qui aussi souvent à Beckett, bien sûr. Beckett, voilà, c'est des voix, hein, même. Il va jusqu'à, il n'y a plus qu'une voix, il n'y a même plus le personnage sur scène, quoi. C'est plus qu'une voix comme ça. Donc je pense que évidemment tout ça quand même, c'est là, quoi. Oui, c'est présent en moi. Je peux pas faire autrement. Mais après, j'ai pas. Je me suis pas dit que j'allais écrire un texte de théâtre. D'ailleurs, il est publié comme un roman, quoi.
Oui.
Mais effectivement, et d'ailleurs, on vient de. Il vient d'être publié en allemand, là, par un traducteur allemand, et pris, avant même d'être pris par une maison d'édition classique, quoi, par une maison d'édition théâtrale, qui pense que c'est, donc, puisqu'ils l'ont pris, c'est qu'ils pensent que ça peut être joué sur scène, en Allemagne, voilà. Donc oui, c'est qu'il y a un rapport au langage, quoi, de ces voix qui peuvent être proférées, quoi.
Oui, et presque si parfois quelque chose qui peut rappeler le cœur tragique.
Oui, exact. Oh, oui, tout à fait. Ouais. C'est un des enjeux. Moi, il y a un moment, c'est enfin, comment dire. C'est ce que je voulais, c'est que ça soit une tragédie, mais pas un drame bourgeois.
Ce que je me demandais aussi, Guillaume Viry, c'est dans quelle mesure votre travail de comédien, d'incarnation d'un personnage, vous a aidé à approcher ce qu'est Jean, malgré le peu de choses que vous avez pu glaner sur son histoire.
Après, oui, c'est une création. C'est une création, parce que de toute façon, je ne sais absolument rien de lui. Si, j'ai une photo de lui à un an. Voilà, c'est la seule photo.
Allez, on va faire une petite pause musicale avec Maxime Le Forestier et on se retrouve tout de suite après sur Aligre FM pour continuer à évoquer ce très beau roman, La Plaie de Guillaume Viry.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
C'est d'abord le soleil qui te frappe. Tu es né à Saint-Dizier, ne l'oublions pas. Le soleil qui castagne contre tes habits lourds de militaire. Tu sues, tu as mal au crâne. Tu bois de l'eau, tu as toujours mal au crâne. Tu avances dans les collines sèches sur les hauteurs de Berwadjia. Tu es arrivé la veille, tu en es déjà à te faire mal aux pieds sur des sentiers arides. Tu es l'avant-dernier de la colonne, vous êtes une vingtaine. Tu n'en sais rien, tu n'as pas compté. Tu connais 2-3 prénoms, pas davantage. Tu n'as eu le temps de rien, encore moins de parler, depuis que tu es arrivé dans ce trou perdu. Tu entends un type gueuler. Le type qui est devant. Tu l'entends gueuler. Tu ne l'écoutes pas. Il gueule fort. Il a une tête qui ne te revient pas. Tu te l'es dit dès que tu l'as vu. C'est le chef. Tu as déjà oublié son grade. Tu t'en fiches des grades. C'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas cette organisation. Tu n'aimes pas ces types avec leurs calots sur la tête. Jean, pas de vagues. Jean, pas de vagues. Louis te l'a dit avant de partir. Courbe, courbe. Ne dis rien, surtout ne dis rien, et tu reviendras comme tu es parti. Faire des malins comme ils font, et pas seulement le grand con à gueuler en tête de peloton, d'autres suivent, la majorité, évidemment une majorité, et ça gueule. Pas de phrases, rien que des bouts de mots, et ça gueule, pour se donner du courage sur le sentier qui fait mal aux mollets et flingue les talons.
Voilà, extrait du très beau roman L'Appeler, lu par son auteur, Guillaume Viry. Guillaume Viry, dans ce passage, ce qui est évoqué, c'est un double déracinement. C'est l'arrivée dans une terre étrangère, la lumière, le soleil, la chaleur, l'inconfort. Mais c'est aussi la confrontation à l'armée comme terre étrangère, avec ses lois et cette injonction à la soumission totale.
Oui, complètement. Et justement, je n'ai pas fait sans doute assez de recherches. Non, mais je crois que les appelés n'étaient absolument pas formés. Enfin, ou alors ils ont été formés, quoi, 2-3 jours à tenir un fusil, une carabine. Donc ils arrivaient sans aucune formation, quoi, balancés comme ça dans un métier. Enfin, je ne sais pas. Si c'est un métier, mais si.
Il paraît.
Oui, voilà. Oui, c'est un double complètement lâché dans une terre inconnue. Pour des gars, jamais ils avaient traversé la Méditerranée, pour la plupart. Voilà. Et à devoir suivre les ordres, oui, de chef, quoi.
De chef que vous appelez grand con et grand mou, comme si dans ces surnoms il y avait l'ébauche d'une catharsis possible pour ces jeunes enrôlés à qui vous prêtez quand même une rébellion en s'agissant de Jean, vous en faites quand même un rebelle.
Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'de toute façon, il y en a beaucoup qui se sont rebellés. Hein. Effectivement, oui, il n'accepte pas un ordre à un moment, voilà, de tirer sur un
détenu.
Oui, voilà, sur un détenu. Et,
un fel,
et comme ça, il se retrouve rapidement au trou, quoi. Oui, grand con et grand mou. En même temps, je savais pas. Le grand con est arrivé tout de suite, naturellement. Donc après, je pouvais pas donner un nom ou un prénom à grand mou. Voilà, c'était. Puis il a dû en avoir pas mal quand même, quoi. J'imagine, des grands cons et des grands mous.
Oui.
Pas tous, hein, mais oui. Certains, oui, quand même, oui.
Votre récit, c'est aussi combien. En même temps, même si certains se sont rebellés, on est embarqué dans ce truc, dans cette violence, dans ce « ça ». C'est le mot que vous employez beaucoup, « ça », qui m'a fait penser au premier mot du voyage au bout de la nuit et de Bardamus. Ça a commencé comme ça, moi j'avais jamais rien demandé. Il y a cette idée-là, assez terrifiante en fait, que l'humanité peut très très rapidement sombrer dans l'inhumanité dès lors qu'il y a comme ça une injonction, un embrigadement et la peur de l'autre qu'on ne connaît pas.
Oui, tout à fait. Et puis protégé par la structure, quoi, de l'armée, quoi. Qui va protéger, Oui, pour protéger, oui. Donc, oui, c'est fascinant et c'est que totalement mystérieux. Oui, comment se fait-il que certains ne se soient pas arrêtés, quoi, à un moment, ne se soient pas contraints, quoi, à arrêter des actes barbares, quoi.
Qui ont fait d'eux des victimes. On l'entend dans les témoignages de l'ennemi intime, par exemple, et dans d'autres témoignages qui ont malgré tout affleuré depuis. Et on le sent aussi dans votre texte. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais la description de Jean, tout filigrane, évoque celle d'un homme... qui, nu, subit la torture sous les yeux de Jean, comme s'ils se rejoignaient tous les deux dans la même violence, quoi. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient.
On voulait entre la scène de torture et la première description de Jean, le personnage allongé. Oui, c'est totalement inconscient, mais non, mais maintenant plus du tout. non, oui, là, je m'en rends bien compte que c'est assez terrible, c'est qu'il y a vraiment deux images qui font miroir, quoi, qui font absolument écho, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, avec ces chocs électriques, quoi. À la fois pour les électrochocs et la torture, quoi,
c'est
vraiment. Hein.
Puisque ce que vous évoquez aussi, c'est le basculement dans la dépression profonde, dans une maladie que le langage médical peine, lui aussi, à nommer. Et qui se traduit effectivement par une ironie tragique, par les soins les plus violents qui puissent exister, les électrochocs qui résonnent avec la torture.
Qui était, je crois, assez courant à l'époque. Hein,
oui.
Vraiment. Ouais.
Aligre FM 93.1.
Alors, il y a aussi cette idée d'un personnage emmuré dans sa mémoire. Qui est emmuré par la mémoire. On ne va pas tout dévoiler parce qu'il y a quand même des choses qu'il ne faut pas dire de ce récit, mais il y a cette idée-là. Je vous propose qu'on lise un nouvel extrait pour faire entendre cette langue à la fois belle et terrifiante que vous avez su inventer pour dire l'indicible, Guillaume Viry, dans ce roman, l'appeler. C'est à vous.
Pas plus d'une journée. Pas plus d'une journée, et moi, Jean, j'en suis à vomir. Je ne fais pas d'image, je vomis dès le premier soir. On pourrait penser à une insolation, ce n'est pas une insolation, c'est que c'est déjà trop. Pas le temps de philosopher, 5h du matin, grand con réveille le camp. Il gueule qu'il y en a à se farcir dans la plaine à 1 heure de marche. Au moins, ça ne grimpera pas. Au moins, c'est une plaine. Pas le temps de pisser, le temps de rien, seulement de se lever, en fantôme, rejoindre les fantômes, et que ça redémarre. Grand con gueule, ne s'arrêtera jamais, et il gueule, avec sa voix perchée dans les aigus. Il est sûr qu'on va s'en faire avant le lever du soleil. Ils le méritent, ces salauds, ils ont descendu 2 de nos gars. On va leur montrer qu'ici, c'est pas chez eux. Les grands cons gueulent. On s'approche d'un village. Une dizaine de maisons, pas plus. On rase tout, dit Grand Con. On rase tout, répond la meute. Grand Con précise, sauf les traits baisables, on garde. On garde les traits baisables, répond la meute. L'ensemble de la colonne sort son arme de service. Je suis le mouvement. Pas de vague, Jean. L'envie de vomir qui revient, pas davantage une image. Je ne peux pas me retenir. Le gros derrière moi, un de ceux dont je connais le prénom, Marc, alerte. Jean vomit. Il enfonce le clou, se bidonnant. Jean a peur. Grand con coupe court. On le laisse faire ce qu'il a à faire, il nous rejoindra, on avance. Je termine. Moi, Jean, je termine de vomir. Reprends ma place, le dernier dans la file. Je bois un coup d'eau, pas le temps de fermer la gourde. Grand con hurle. Ça sort. Tu parles. La colonne fait un tel boucan avec les pompes militaires dans ce coin paumé sans jamais un bruit. Tous sortent de leur maison. On ne voit pas plus loin que son nez. des ombres, seules des ombres. Les ombres tentent de s'échapper, ça balance. La colonne tire, en rafale. Ça envoie des balles de toutes parts, ça balance sur les ombres. L'armée française tire, l'armée française tue les ombres. Ce n'est déjà que le silence et l'odeur de la poudre et l'odeur du sang. Le soleil apparaît, éclaire une jeune femme, elle sort de sa cachette, elle est apeurée. « Servez-vous, dit Grand Con. » La France se sert.
Merci Guillaume Viry d'avoir prêté votre voix à ce texte. Lorsque vous avez écrit ce passage, comment sort-on de l'écriture d'un tel passage? J'ai vu que vous étiez ému à la lecture. Et...
Je savais pas de tout. Je savais pas. J'avais lu donc dans les textes des historiens ce qui s'était passé, les choses atroces, abominables. Et voilà. Mais je savais pas lesquelles allaient sortir dans l'écriture en fait. Je savais pas si voilà, il allait avoir un viol, une séance de torture. Voilà. Je savais pas. Donc c'est sorti un peu comme ça au fil des mots. C'est dérouler un ruban, quoi. Un mot entraînant un autre mot, quoi. Par écho, par rebond. C'est-à-dire, c'est pas, je fais pas de plan de ce chapitre-là, je vais écrire ça dedans. Non. Je laisse le récit avancer, quoi. Enfin, c'est le personnage, d'ailleurs, c'est le personnage de Jean qui fait avancer le récit, quoi. J'essaye de le laisser aller, quoi, en fait. Oui, c'est pas prémédité, oui.
Et vous réveillez et vous épousez la rébellion de Jean, à ce moment-là?
C'est-à-dire?
Vous la faites revivre, parce que finalement, il n'y a pas de trace de...
Non, il n'y a aucune trace.
...de l'oncle qui a inspiré ce personnage.
Non.
Mais vous saviez par votre père qu'il était lui-même réfractaire à...
Oui, ça partir. Oui, non, ça je savais, oui. Oui. Oui, mon père m'a dit... voilà, de toute façon, ça c'est des choses, des éléments de réalité. Quand je parle du voyage en bateau, mon père m'a dit, je crois que dès le voyage, ça s'est mal passé.
Oui.
Parce qu'il n'avait pas envie d'y aller, il ne voulait pas y aller, voilà, oui, réfractaire. Quoi.
Donc écrire sur...
Donc ça, c'était la ligne que j'avais, que je savais qu'il ne s'était pas accommodé de tout ça. Quoi.
Ouais. Mais on a le sentiment dans l'écriture, dans votre écriture, que vous épousez son côté réfractaire, que vous...
Ah, vous voulez dire que je suis d'accord?
Oui.
Ah oui, totalement, vous... oui, bien sûr. Oui. Enfin, d'accord, oui, enfin, comment ne pas l'être, quoi. Je veux dire, bah oui. Après...
Mais parce que c'est aussi donner voix et forme à un discours qui n'a pas été entendu et qui n'a pas été formulé, finalement, par votre oncle, puisqu'on ne sait rien.
Qui n'a jamais pu l'être, oui. C'est pour ça. Non, il y a une absence d'histoire de sa part et de plein d'appelés, à la fois, oui, historiques. Et après, pour lui, pour son cas, mais comme pour beaucoup d'autres appelés, psychiatrique, quoi, en fait. La psychiatrie, donc, il n'y a pas eu une libération de la parole avec les relations. Il a vu plein de psychiatres, machin. Et je crois pas qu'il ait tellement parlé, quoi. Ça s'est limité à des cachets, après aux électrochocs, quoi. L'histoire n'a jamais pu avoir lieu, en fait. Enfin, n'a jamais pu voir jour, enfin, être dite. Et dans la famille non plus, en fait.
Oui. Comme dans beaucoup de familles. Hein.
Comme dans beaucoup, c'est bien sûr, oui. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis vraiment autorisé à écrire le texte après avoir lu le livre de Raphaël Branche, là, Papa, qu'as-tu fait en Algérie, et donc tous ces témoignages d'appelés, en me disant que, bon, ok, j'allais pas raconter mon petit truc à moi, mais que quand même, il y en avait beaucoup quand même. que c'était pas le seul appelé, enfin que des appelés, il y en a eu un paquet, quoi, et qui ont été... sacrifié, quoi.
Oui, c'est... l'une des forces de ce texte, effectivement, c'est que à travers Jean, c'est des milliers d'appelés à qui vous donnez aussi voix.
Oui, complètement, c'était le projet d'ailleurs, bien sûr, que ça soit.
Et il y a toute cette question aussi de la psychiatrie, du corps médical qui est très important. Vous avez une expression très belle, vous parlez des aplats de langage pour le langage médical qui, au fond, et c'est terrifiant, rejoint un peu le langage militaire très lacunaire et très impuissant, au fond, aussi.
Oui, complètement. Comme si c'était des mots, en fait, qui... Ben, je crois que je mets des écorces sans... Pardon, je n'ai pas m'autocité, mais... Des écorces sans noyau. Enfin, je ne sais pas. Non, un truc mieux
oui,
que ça.
Oui, il y a ça enfin, aussi, bon. Effectivement, il y a cette expression.
Mais oui, en tout cas, tout d'un coup, une langue où les mots ne viennent pas dire, mais en fait, sont des mots masques, quoi. C'est des mots qui sont là pour cacher, qui sont là pour recouvrir, en fait, le réel, quoi. Et pas pour le dévoiler, quoi. C'est ça, qui est terrible. Quoi.
Oui, et on retrouve ça aussi dans la famille. On fait comme si.
Bien sûr, oui.
Il y a cette répétition de comme si, comme si, comme si.
Comme si, En même temps, on espère toujours.
Oui, mais il y a cette volonté, enfin, il y avait aussi cette volonté dans beaucoup de familles d'éluder.
Oui, et comme si ça allait mieux, et que donc c'était pas la peine d'en parler forcément. C'est pas forcément une idée d'ailleurs qui est bête, hein, de se dire bon, est-ce que parler ça va pas rajouter du drame au drame, et peut-être qu'il vaut mieux se taire et ça ira mieux. Mais en fait, non, ça marche pas, quoi. Faut parler quand même.
Oui, et votre exemple, comme celui de beaucoup d'autres, Guillaume Viry, montre aussi. L'importance de la mémoire transmise, je crois que le texte, votre texte, interroge cette question-là, de ce qui peut passer d'un silence à travers les générations.
Un silence familial à travers
les générations. Je vous laisse vous désespérer avant de répondre, je vous en prie.
Mais c'est que, oui, ça c'est sûr, c'est bien parce que ça n'a pas été dit, que ça n'a pas été mis en mots, en forme. Que ça continue à exister des générations plus tard. Les choses qui ont été dites n'existent plus. Enfin, en tout cas, n'existent plus de manière traumatique. Tant que c'est pas dit, ça existe et ça descend de génération en génération. Oui.
Du coup, comment qualifieriez-vous alors cette entreprise d'écriture ? C'est une manière pour vous de solder vos comptes avec... cette part de non-dit familial
Non, c'est plutôt de... Enfin, en tout cas, de rendre... rendre grâce, quoi. Rendre justice à... Comme ça, ce personnage, enfin, voilà, cet agent, à cet appelé, et aux autres appelés, d'ailleurs. Ça dépasse le cadre familial, ouais. C'est pas... Comment dire, il n'y a rien de... C'est pas une charge contre une famille qui se serait tue et, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ou bêta de s'être tue et tout ça. Non, c'est pas ça, c'est pas... Enfin, c'est pas... Non, c'est... Chacun, on fait bien comme on peut, hein, c'est compliqué, quoi.
Mais c'est un texte dont vous pensez aussi qu'il peut dépasser... par son propos et son intensité, la seule guerre d'Algérie et finalement évoquer d'autres guerres, toutes les guerres.
Je pense. Enfin, oui. Je pense qu'il s'inscrit dans le cadre de la guerre d'Algérie, mais qu'au fond, oui.
Alors, je vous propose de lire un autre extrait, ou moi.
C'est, comme vous voulez.
Allez-y.
Allez. C'est la nuit, pleine, ample, sursaut, je spasme. Je quitte la chambre au lambris en bois clair, descends l'escalier, le fais grincer malgré la prudence, traverse le vestibule, les narines sont happées par l'odeur d'eau de Cologne de Louis qui filtre de la chambre close du couple parental. Je tourne la clé dans la serrure de la large porte d'entrée verte. En chaussettes, grosses chaussettes, genre montagnarde. Je marche sur les graviers calcaires blancs, bien blancs, pas encore vieillis. Aux alentours, rien ne bouge. Les chaussettes aplatissent le calcaire. Un caillou, pas poli, biseauté, tente de venir trancher la laine. N'y arrive pas, se rétracte, s'aplanit dans l'étendue blanche de la cour de la maison aumarnaise. Un autre caillou, plus tranchant, plus véloce. Petite douleur, cette fois. Douleur, tu parles ? Pas une douleur. Bien longtemps que je ne sens plus de douleur, que ça soit sous les pieds ou ailleurs. Voûte ou quoi que ce soit, je suis bien anesthésié. On aurait beau venir me taillader la plante des pieds, ça pisserait le sang sous mes pieds, ça serait un silex et pas un petit bout de calcaire vaguement rugueux, un silex qui me couperait le creux sous les pieds, parlons même d'un couteau à trancher la langue d'un bœuf, ça serait même un couteau qui viendrait m'entailler bien profond, me sectionner les tendons en y rentrant le tranchant de sa lame, même avec l'ustensile de boucherie, je sentirais plus grand-chose. Plus grand-chose à sentir, même rien, je crois. Question douleur. Tout dort, tout ronfle. Moi, Jean, je tourne. Tourne dans la cour de la haute maison. Tourne, tourne, cheval de manège dans tes chaussettes en laine de chameau. Tourne, garde les yeux écarquillés face à face avec le noir. Tourne, vide-toi la caboche, vide le fil. Débobine la pelote, enroule-toi dans le fil rouge. Habille-toi du fil rouge, ne dors pas. Tourne. Tourne, ne dors pas. Tu le sais, ça. Tu le sais. Si tu dors, tu meurs.
Voilà, très bel extrait où vous approchez au plus près aussi de la nuit, de la plaie rendue à lui-même, à sa solitude et à une mémoire envahie par le souvenir.
Oui, par le ressassement, en fait. C'est ça, en fait. C'est que je pense, oui, c'est vraiment un temps qui s'est immobilisé, je pense, en fait. Un temps circulaire pour le personnage de Jean. Le temps, à partir de ces 3 mois en Algérie, c'est devenu un temps, non pas horizontal, qui se déploie, voilà, non, mais circulaire et qui enferme. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte après, hein, la forme du roman est circulaire, en fait. C'est un cercle, puisqu'elle commence et finit par le personnage de Jean, mais dans des cercles, en fait.
Oui, et c'est aussi l'idée que ces 3 mois scellent une vie, qu'il n'y a plus d'avenir possible, et que le présent n'est que celui du ressassement.
De ces 3 mois, oui, tout à fait.
De ces 3 mois.
Oui, c'est ça, un temps vraiment arrêté, quoi. Oui.
C'était en 1900 et plus dans le Djebel, au nom de la patrie, promu artificier. Nous rêvions en silence au gros cul de nos belles, en violant quelques chèvres à l'ombre des figuiers. Par 6 mois de jeûne, ça vous titille un homme, et qui plus des soldats, vainqueur in partibus. Si bien qu'en fin de compte, on se surprit en somme, au bout de 15 jours, à baiser les cactus. Hissez les drapeaux, une minute de silence, garde à vous les héros, pour l'honneur de la France. Mais après les drapeaux, l'autre vie recommence, le retour des héros se passe sous silence. On s'excitait parfois entre deux gourdes d'eau, dévorés par les poux, bouffés par les moustiques, aveuglés de soleil et râlant sur le dos. On cherchait l'ombre rare d'un mirage érotique. Lucien qui l'avait fine, mais de belle tenue, taraudait en expert de très jeunes canards et s'endormait enfin, puant goinfré repu. La chemise tachée comme nos étendards. Hissez les drapeaux, minute de silence, garde à vous les héros, pour l'honneur de la France. Mais après les drapeaux, l'autre vie recommence, le retour des héros se passe d'importance. la paix fut signée, que tout fut déconquis, qu'on nous réexpédia au pays des bordels. Dans nos veines coulait le foutre des maquis, nous ne regardions plus passer les jouvencelles. Mais le temps a passé qui lave les cerveaux. Aujourd'hui gentiment je contente ma femme, mais un soir en cachette j'irai dans le métro prendre enfin mon plaisir sous le corps d'une rame. Hissez les drapeaux, minute silence, garde à vous les héros pour l'honneur de la France. Mais après le drapeau l'autre vie recommence, le retour des héros se passe à contresens. Mais après les drapeaux, l'autre vie recommence. Si j'ai sauvé ma peau, ai-je vraiment eu la chance? La chance! La chance!
Henri Tahan, après les drapeaux. Pour saluer mon invité, Guillaume Viry, depuis ce matin 10h, qui vient nous parler d'un roman hors du commun, d'une rare intensité, La Plaie, c'est aux éditions du Canoë. Guillaume Viry, vous me disiez en écoutant la chanson d'Henri Tahan, il savait chanter avant, et en fait je l'ai découverte pour préparer cette émission. Il m'a semblé qu'il y avait dans cette langue qui ne fuit pas les mots les plus durs pour dire la réalité, quelque chose qui avait à voir avec votre langue. Il a fallu se coltiner aussi ce langage, trouver les mots justes, sans fioritures, pour donner voix à tous ces personnages de ce roman choral dont nous parlons depuis 10 heures et qui évoque les traumas, au fond, hein, de la guerre d'Algérie et les traumas laissés aux appelés, aux jeunes appelés.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est très beau, cette chanson qu'on vient d'entendre, que je ne connaissais pas. Oui, oui, c'était trouver les mots et oui, les mots les plus justes qui disent. Moi, après, c'est un choix esthétique, quoi, un projet littéraire, d'essayer de faire entendre, de faire le plus largement possible et de manière la plus complexe possible avec le moins de mots, quoi. Ou en tout cas avec des. Le moins de mots, les mots, seulement les mots nécessaires. Et aussi, oui, avec des choses que j'aime, moi, qui m'intéressent, de la répétition, parce que j'aime bien quand les mots reviennent. Et comme ça, on peut les entendre. Ils sonnent autrement et la sonorité est autre, en fait.
Oui, c'est vraiment une écriture de la répétition. Et,
ouais.
Et peut-être, au fond, vous me direz ce que vous en pensez, que l'un des sens possibles de ce qui, par définition, et votre texte le dit, n'en a pas, la guerre et son cortège de barbarie, c'est au fond de trouver du sens par la littérature, ou en tout cas d'obliger la littérature à se réinventer toujours pour dire l'indicible et pour tenter de donner un sens possible. Ou pas, je ne sais pas.
Oui, oui, tout à fait, oui. Enfin, que les choses soient nommées et d'une autre façon que les textes des historiens, qui sont très importants, mais là, c'est encore autre chose, oui. C'est, il faut nommer les choses, mais je pense, c'est un peu mon... Enfin, peut-être que je me trompe, mais quand même que les hommes politiques français n'ont pas beaucoup, ou en tout cas pas suffisamment nommé cette guerre et les atrocités, quoi. Toujours aujourd'hui, il y a eu un petit peu, hein, mais pas, c'est quand même pas très net tout ça, je trouve. C'est pas très clair. Il n'y a jamais eu de mots vraiment encore. Après, c'est finalement assez récent, mais je crois qu'il pourrait faire mieux.
Et oui, et on a le sentiment parfois dans certains, en écoutant certains débats politiques, que dans certains esprits, cette guerre n'est, n'est pas fini. Voilà, donc un très très beau roman. Merci beaucoup Guillaume Viré, vraiment c'est un très beau roman et je le dis rarement avec autant d'insistance à ce micro, La Plaie aux éditions du Canoë, un roman qui est à mi-chemin, enfin qui sonde à la fois l'effacement et la trace réunie dans un même sillage, celui laissé par cet oncle qui vous a inspiré et dont on ne sait pas grand-chose, mais si ce n'est qu'il fut lui-même appelé et que ce fut compliqué, pour reprendre les mots du père dans ce roman. La Plaie aux éditions du Canoë. L'émission touche à sa fin. Merci à Didier Robert qui était aux commandes aujourd'hui, assisté de Séphraïm Famille. Merci vraiment à tous les deux.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Et merci à vous, Guillaume Viré, d'être venu au micro d'Aligre FM parler de ce texte. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, comme on dit, puisque c'est le moment. Et à très bientôt sur l'antenne d'Aligre FM.
Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.